Et ça, on appelle cette compétition maintenant, avec les deux équipes, la BAL. Et cette BAL, toute la partie, je dirais, promotion, marketing, etc., etc., c'est pour la NBA. Et la partie compétition, en tant que règlement, les arbitres, les commissaires, etc., c'est FIBA Afrique. Et ce sont les règlements de la FIBA qu'on utilise dans cette compétition, parce qu'après tout, c'est une compétition africaine, avec des joueurs africains. Il y a quelques joueurs américains, etc., mais c'est plus une compétition africaine. Ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui jouent pendant l'afro-basket, etc. Donc nous appliquons, la NBA a accepté, nous appliquons le règlement de la FIBA pendant cette compétition, avec des arbitres africains et quelques arbitres de la J-League. Voilà un peu l'histoire. Ça nous a permis de créer donc une bonne famille. Nous constatons que ça nous va au niveau continent africain. Ça permet la révélation de beaucoup de joueurs. Ça permet la promotion de ce basket africain, pas seulement la BAL, mais la promotion de ce basket africain, une visibilité vraiment intéressante. C'est ce que nous recherchons.
Bonjour ou bonsoir, c'est Selon. Merci de nous rejoindre ici à la Voix de l'Amérique, à Washington DC. Nous recevons pour vous aujourd'hui, bien sûr, M. Will Biakop. Il est expert en économie du sport. Il est le président de l'African Sport and Creative Institute. J'y arrive. M. Will Biakop, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, enchanté.
Alors, vous êtes auteur, bien sûr, d'un document qu'on va parcourir ensemble tout à l'heure, même si 15 minutes, c'est très peu. Dites-nous déjà, si vous devez vous présenter à ceux qui nous suivent, qui êtes-vous ?
Écoutez, je suis un enfant de l'Afrique, je suis un enfant de Yaoundé, Cameroun, surtout un panafricain finalement. J'ai eu la chance de jouer un peu au basket, de faire du sport de haut niveau dans ma jeunesse et puis après de bifurquer sur le côté éducation. J'ai pu aller à l'école en Europe, en France et puis en Angleterre. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai que le sport m'a donné beaucoup de chance en termes d'opportunités, mais également des valeurs que j'ai pu ensuite retransposer dans le monde professionnel, qui a provoqué une certaine forme de réussite, j'ai envie de dire. Et pour aller un peu plus, pardonnez-moi, pour terminer sur le parcours professionnel, c'est près de 10 ans au niveau de la NBA, où j'étais en charge du business développement pour NBA Africa. Aujourd'hui, je mène avec l'équipe le développement de l'écosystème du sport et des industries culturelles et créatives en Afrique avec la SCI.
Alors justement, quand vous parlez d'industrie du sport en Afrique, on sait que ce n'est pas très développé sur le continent. Quel est le constat que vous faites ici et maintenant ?
Alors le constat, il est double. Je pense que la première chose, c'est que moi, je ne dis pas qu'il n'est pas développé. Je dirais qu'il est en cours de développement déjà. Il y a un énorme potentiel. Le potentiel est important. Mais ce potentiel, pour se réaliser, il y a un certain nombre de prérequis que nous devons entreprendre, aussi bien le secteur public que le secteur privé.
Quand on parle de business, vous l'avez dit, hein, vous parlez de business du sport en Afrique. Est-ce qu'il y a véritablement, actuellement, le sport et du business en Afrique ? Dans le
Absolument.
Bon sens, bien sûr.
Absolument, il y a du business ou de l'économie du sport en Afrique. L'économie commence à travers l'enfant ou la maman ou le papa qui ont besoin d'acheter un short ou un t-shirt pour l'enfant qui va à l'école. Donc ça, c'est déjà une transaction commerciale, c'est une valeur commerciale. Ça implique aussi bien un fournisseur qu'un client. Donc ça, c'est une valeur commerciale, c'est une valeur donc économique qu'il faut absolument rentabiliser. Et donc oui, aujourd'hui, l'économie du sport en Afrique existe. Elle est à hauteur d'environ 0,5%, donc 0,5% environ à nouveau.
C'est très peu quand même. Hein.
Absolument, c'est très peu, surtout à la lumière du formidable potentiel et du formidable marché domestique qui est en Afrique. On parle d'un marché de 1,4 milliard de gens qui ont en moyenne 19 ans. Ça veut dire que c'est des gens qui sont jeunes et qui ont une propension à consommer, mais également à pratiquer du sport pendant très longtemps. Donc pour moi, tout ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que nous sommes face à un marché qui est nouveau, qui va se pérenniser, qui a un potentiel important pendant longtemps. Et c'est à nous de s'investir aussi bien au niveau public qu'au niveau du secteur privé. Alors, une première chose, il y a un grand élément qui différencie la CAN camerounaise de la CAN ivoirienne, c'est le Covid.
Oui, bien évidemment.
Donc ça, c'est déjà un impact majeur. Le Covid a freiné l'engouement, le Covid a empêché de vivre la CAN dans sa plénitude. aussi bien pour les Camerounais que les visiteurs. Donc ça, déjà, c'est un grand point. La deuxième chose, c'est que, bien entendu, les Ivoiriens ont plus de temps pour préparer leur CAN. Donc, effectivement, bah, quand on a plus de temps pour préparer, on peut mieux faire les choses. La troisième chose, c'est qu'il y a davantage d'investissements. On parle de 1,5 milliard d'euros d'investissement. Et ces investissements, ils ont été multiples. Ils ont été au niveau des infrastructures, donc les stades, hein. En 5 villes, 6 stades, dont 2 bien sûr à
Abidjan.
Voilà, mais également des infrastructures routières. Je pense à la côtière notamment,
justement,
qui lie Abidjan à San Pedro.
Oui.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous améliorez l'expérience client, la fan expérience comme on l'appelle. Donc aujourd'hui, au lieu d'aller seulement à Abidjan, ben, y a des gens qui vont vouloir aller à San Pedro, à Corogo, etc., etc.,
oui,
et consommer plus. Donc, la totalité, la combinaison de ces différents facteurs font que, effectivement, vous allez être en position de gagner plus d'argent.
Alors, vous l'avez dit, vous avez une expérience avec la NBA Africa. Aujourd'hui, il y a la Basketball Africa League sur le continent. Vous parlez justement d'économie du sport. On voit cette vision, bien sûr, des autorités de la NBA, qui sont à l'initiative, bien sûr, de cette Basketball Africa-là, et qui veulent faire de ce sport, le basket, quelque chose de très populaire d'abord sur le continent et de rentable. Comment vous voyez cela?
Ben, je pense que c'est formidable. C'est formidable de voir des ligues majeures, comme on les appelle, que ce soit la NBA ou autre, investir davantage sur le continent. Ça veut dire qu'ils valorisent le continent lui-même, qu'ils comprennent le potentiel économique qui réside dans le continent et comprennent que ce potentiel économique va durer pendant très très longtemps. Donc c'est absolument positif. Vous savez, quelque part, en anglais on dit blaze the trail, donc ils sont en train d'être des pionniers et de mettre les premières pierres en avant pour les autres qui vont suivre. Donc il faut leur tirer le chapeau, il faut leur souhaiter toute la réussite qu'ils méritent et c'est très positif pour le continent d'un point de vue symbolique mais également d'un point de vue économique puisque chaque événement qu'ils organisent génère du revenu.
Alors, dernière question avant de revenir, bien sûr, à votre livre. On le voit, hein, quand on parle des noms comme vous l'évoquez, d'ailleurs, on voit le visage de Didier Drogba sur votre bouquin. Mm-hmm. Il y a Samuel Eto'o, fils. Il y a Kipchoge du Kenya, par exemple, en athlétisme et autres. Ce sont des figures ou encore des noms, pour moi, qui ne sont pas autant valorisés qu'un Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. En tout cas, sur le continent africain, on voit que souvent, ils ont du mal à partir avec les acteurs du football local, parlant bien sûr du Cameroun avec Eto'o, avec tous les problèmes qui s'entourent. Didier Drogba qui a essayé, par exemple, la présidence de la Fédération Ivoirienne de football qui n'est pas parvenue. Pourquoi on n'arrive pas à faire de ces noms-là de véritables marques déposées sur le continent, comparativement à ce qui se passe ailleurs?
Bon, je pense qu'il y a plusieurs aspects dans votre question. La première chose, c'est qu'il faut saluer le fait que ces noms sont des noms et des marques mondiales.
Mondialement connus, oui.
C'est-à-dire que moi, vous savez, c'est drôle, je voyais l'autre jour une émission où le président Ouattara parlait. Il dit qu'il est parti visiter la reine-mère en Angleterre. Et puis bon, elle rencontre plein de présidents. Elle dit bonjour au président de machin, président de truc. Et elle arrive à « Président Ouattara, vous êtes donc de Côte d'Ivoire ?»«
Le pays des Drogba. »
Voilà. Donc elle répond « Mais Didier Drogba !» Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces joueurs ont dépassé le cadre d'être juste des joueurs. Ce sont des marques, donc des marques commerciales. Elles valent de l'argent, des sponsors sont prêts à payer pour elles. Mais c'est également des ambassadeurs. Et je crois que ce côté, ce qu'on appelle global influence, donc l'influence globale, et même la diplomatie sportive, c'est quelque chose que nous devons absolument prendre en compte en Afrique. Il faut se rendre compte que tous nos talents, qu'ils soient dans le sport, la culture, les arts, etc., la science, la technologie, tout ça sont des ambassadeurs de nos pays qui peuvent faire rayonner nos pays au-delà des frontières nationales, régionales ou continentales. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut les célébrer. Il faut les célébrer beaucoup plus qu'on
le fait. C'est qu'on ne fait pas assez sur le continent.
Exactement.
À mon même avis.
Absolument, vous avez absolument raison. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est qu'effectivement, en Occident ou ailleurs, on va célébrer certains athlètes comme il se doit, parce qu'on reconnaît la valeur, le travail, etc., tout ce qu'ils réalisent. C'est vrai que sur le continent, c'est étonnant qu'on ne célèbre pas assez.
Quand on parle de continent, les Camerounais vont penser qu'on ne parle que de leur pays. On parle du continent africain.
Moi, je parle du continent africain. Moi, je parlais en tout cas du continent africain. Et c'est vrai que c'est presque antinomique avec notre identité.
Ouais.
Parce que l'ADN africaine, vous savez, on parle de Ubuntu, par exemple, c'est célébré. L'autre, je suis parce que vous êtes.
Bien évidemment.
Vous voyez ? Donc, ça veut dire que je ne peux me réaliser qu'à travers vous, qu'à travers ma communauté, où que je sois à New York, à Pékin ou encore à Londres, c'est l'Afrique que je représente partout où je rentre. Vous voyez ? Et c'est vrai que ça, c'est comme je disais, c'est contradictoire avec notre ADN, notre identité africaine, qu'on ait ce manque de célébration de l'autre. Et c'est quelque chose, je pense que la jeunesse qui arrive est en train de changer, en tout cas, je l'espère.
Alors, on en vient à votre livre, Industrie du sport en Afrique. Sorry. Déjà, qu'est-ce qui inspire l'écriture de ce livre-là et qu'est-ce que vous visez? Deux questions en même temps.
Donc, il m'a semblé important de créer un ouvrage dans lequel les gens, les acteurs de l'écosystème vont venir chercher, trouver de l'information. Parce que la première chose qui freine le développement de l'économie du sport en Afrique, c'est la data. On a besoin de comprendre qui consomme le sport, comment il le consomme, où, quels sont les niveaux d'investissement qui sont réalisés, quels sont les niveaux d'investissement qui sont nécessaires. Quelle économie on peut réaliser lorsque les gens pratiquent le sport au niveau du ministère de la Santé? Vous voyez? Donc, c'est plein de questions comme ça qui font que je me suis dit non, il faut absolument rassembler les différentes personnalités qu'on a sur le continent, leur donner la parole, les experts de l'écosystème, mais également les experts de l'économie africaine. Donc, c'est comme ça qu'on nous sommes allés voir les différents acteurs, plus de 500 dans l'écosystème, mais également des superstars, comme je les appelle, ou nos grands du continent. Je pense notamment à Makhtar Diop, qui est le patron de la SFI, ou Société Financière Internationale, ou AFC en anglais. Je pense à Tidiane Thiam. Je pense également à Didier Drogba, pour en citer quelques-uns, qui nous ont apporté leur lumière sur les challenges du continent, mais surtout les opportunités. Et il y en a beaucoup.
Alors, justement, pour quelqu'un qui veut parcourir ce livre et qui a envie de l'acheter, vous l'avez mentionné, hein, vous avez recueilli pas mal de données avec ces autres personnalités, il faut le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur?
On trouve 458 pages de contenu, c'est 10 chapitres, 8 case studies, donc des études de cas, des success stories complètement africaines.
Exemples des success stories?
Absolument.
De qui, par exemple, dans le livre?
Je pense, par exemple, à la demoiselle qui est sur la couverture, qui s'appelle...
Vous pouvez présenter, hein, si vous voulez.
Ouais, bien sûr. Voilà, elle est là. C'est pour les producteurs, je laisse faire le zoom. Mais une des success stories, c'est Navalayo Sambo, qui a créé sa marque dans le retail, donc sa marque de sport, qui s'appelle Enda Athletic, parce qu'elle est kényane, elle voit les grands kényans courir, et à chaque fois qu'ils portent des marques, ce n'est pas des marques kényanes. Donc elle a dit, moi je veux créer ma marque, et c'est une super success story, parce que sa part de marché la plus grande est actuellement aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est un joli exemple. Un exemple aussi à l'international, peut-être, c'est Nike, donc la marque américaine, qui a fait une de ses plus grosses ventes de l'histoire des maillots nationaux avec l'équipe du Nigeria, parce qu'elle a changé le design, elle a mis en valeur les traditions, les couleurs, les motifs traditionnels du Nigeria. Donc, les ventes ont été extraordinaires. Donc, voilà quelques exemples qu'on met en avant. Ensuite, dans le chapitre 4, c'est là où on va sous le baobab. Vous savez, la tradition en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest.
À la recherche de la sagesse.
Voilà. Et donc, dans la recherche de la sagesse, on a 10 personnalités du continent qui nous parlent de différents aspects de l'économie. Donc, l'investissement. Donc, je parlais de Tidiane Thiam tout à l'heure. Les athlètes, donc le développement de talent avec Didier Drogba, mais également la gouvernance, les politiques publiques. Je pense à Vera Songwe qui a mené pendant des années UNECA. Donc on a la chance d'avoir différentes personnalités. On parle également d'éducation avec Hicham El Abti, le patron de l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Donc différentes personnalités qui apportent leur lumière et viennent avec des propositions innovantes pour vraiment développer l'écosystème du sport en Afrique.
Vous avez parlé de gouvernance. Ce mot m'a frappé parce que dans la gouvernance, justement, du sport sur le continent, tout n'est pas rose. Il y a des petits problèmes presque partout, surtout dans le football. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces acteurs qui disent militer pour le développement du football sur le continent, mais qui en réalité aussi créent pas mal de soucis à ce football africain-là?
Alors, premièrement, je ne sais pas si c'est les mêmes. Mais en tout cas, je suis d'accord avec vous. La gouvernance est un sujet majeur. Il faut absolument que la gouvernance soit booster, c'est le sujet d'un de nos chapitres. La gouvernance doit être un booster de développement, notamment économique. Pour ce faire, on propose, nous, de premièrement développer les compétences. Vous voyez, il faut absolument que les gouvernants aient des compétences, sachent de quoi ils parlent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien entendu éviter les conflits d'intérêts. La troisième, c'est peut-être penser à professionnaliser certains de ces jobs. Et puis la quatrième, vous savez, dans le basket, on dit il faut être true to the game, il faut être authentique avec le jeu et avec vous-même. Et moi, j'ai envie de suggérer de revoir nos sociétés traditionnelles africaines. Comment on faisait pour gouverner nos sociétés? Comment faisions-t-on pour gouverner nos cités? Vous voyez, peut-être qu'il faut repartir là-dedans, regarder comment on faisait par le passé, le partage des tâches, le partage des responsabilités, les sanctions aussi. Parce que lorsque quelqu'un ne respecte pas son engagement, il doit être
Il va
sanctionné.
sanctionner.
Ouais, il peut pas rester impuni. Donc tout ça, ce sont des traditions et des valeurs africaines qui, me semble, seraient vraiment propices à implémenter sur la partie gouvernance du sport.
Alors, si vous avez un conseil à donner à ce jeune garçon, peut-être qui court au quartier, qui rêve de devenir un Eliud Kipchoge du Kenya, ou encore à cette petite fille qui joue au football dans le quartier, qui pense à Samuel Eto'o, ou encore à Gaël Ngamou, j'espère que je prononce bien, je suis pas camerounais, excusez-moi. Alors, si vous avez un conseil justement à donner à tous ces enfants-là qui rêvent de faire carrière dans le sport, de devenir quelqu'un dans le sport, comme on le dit, c'est quel conseil vous donnez?
La première chose, c'est qu'il faut rêver et il faut rêver grand. Rêver n'a aucune limite, donc rêver et rêver grand. Rêver d'être le meilleur dans ce que vous pouvez faire. Pour ça, il faut faire honneur à son rêve. Donc si je rêve de grand, il va falloir que je travaille grand également. Donc il faut mettre l'effort nécessaire à tous les niveaux, pas seulement au niveau performance, mais tout ce qu'il y a autour de la
C'est
performance.
surtout souvent l'entourage justement de ces athlètes-là qui crée aussi pas mal de soucis.
Ouais, effectivement, il faut absolument qu'il soit bien entouré. Après, il faut aussi avoir, dans un deuxième temps, pouvoir se dire les choses, être honnête avec soi-même. Réaliser un point, bah, peut-être que je suis pas assez bon. Peut-être qu'en fait, je ne pourrais pas devenir footballeur professionnel, basketteur professionnel ou autre. Mais par contre, vous savez, il y a une centaine de jobs qui sont disponibles dans l'écosystème. Et ces jobs-là, ils sont disponibles.
Oui.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que je peux pas être professionnel du football. Mais peut-être que je peux être un marketeur du foot. Je peux faire du marketing. Peut-être que je peux être comme Yacouba. Je peux être un journaliste. Hein?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Peut-être que je peux être dans l'événementiel. Peut-être que je peux être dans le droit, etc., etc. Donc, à tous les jeunes, il faut absolument continuer à rêver. Il faut travailler et être honnête avec soi-même à la hauteur de ses rêves. Et bien entendu, il faut tout faire pour réaliser ses rêves.
Justement, le livre, et tous les conseils qu'il donne, vous allez les trouver sans doute
Voilà, là-dedans.
dans le livre. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver ce livre-là? Je rappelle que là, c'est en anglais, mais il y a une version française également.
Absolument, la version française s'appelle L'économie du sport en Afrique. Elle est disponible sur notre website African avec un S, avec un N, pardon, africanSCI.com. Elle est également sur Amazon, sur la Fnac, etc., etc. Je suis sûr que sur Google, vous allez trouver tout ça. Et la version anglaise, elle est là, African Sports Industry. Deux versions différentes avec un upgrade ici. On a beaucoup ramené de nouveaux contenus. On a interviewé de nouvelles personnes. Et on a fait en sorte que vraiment, les gens puissent trouver des sources, des outils pour pouvoir s'équiper et attaquer ce marché fantastique qui est l'économie du sport.
Voilà. Les belles paroles. Je n'aurais plus rien à dire. On va s'arrêter ici. Merci en tout cas, Will Biakop. Je rappelle que vous êtes expert en économie du sport. Vous êtes également le président exécutif de l'African Sport and Creative Institute. Vous étiez dans les studios de la Voix de l'Amérique. Merci d'être venu.
Merci de m'avoir accueilli.
Bonne suite à vous.
Mon animal préféré, c'est le cheval. Mon nom, c'est Ouédraogo, qui veut dire cheval mâle. Les chevaux sont forts, rapides, robustes. Et moi, je vois ma personnalité, je me dis, voilà, je suis un cheval. J'ai toujours aimé le bleu, le ciel, l'eau, la piscine. La piscine est toujours bleue. Ça a commencé au primaire quand j'avais 6 ans. Je pense que j'ai appris très vite, après quelques mois, 2 ou 3 ans plus tard, j'ai participé au championnat national et c'est là que j'ai eu le deuxième prix et un premier prix en brasse. Et après ça, je compétissais au championnat national chaque année. Il fut un moment où il n'y avait plus de nageuses dans ma catégorie. Je dirais des cadettes juniors et seniors, il n'y avait pas vraiment de filles. Donc, je nageais avec les garçons au niveau du championnat national. Quand j'arrive à la compétition, les yeux sur moi, la voilà encore. J'ai même eu une discussion avec une personne qui a dit « Est-ce que tu étais obligée d'aller aussi vite ?» Et je lui ai juste dit que, en réalité, je nage contre mon temps. Donc, l'année qui suivait, j'ai compéti encore, j'ai gagné. Et c'est là que l'ancien président de la Fédération de natation, Monsieur Christian Tamini, il m'a dit « Ben, Angelica, tu es la plus rapide, donc on t'amène au championnat du monde en Italie, 2009. » Et c'est là que tout a commencé. La natation est difficile, surtout au Burkina. Déjà, l'accès à l'eau, c'est considéré comme un privilège. Ça, c'est un. Mais pour les femmes, il y a la question des cheveux, la coiffure. Il y a aussi le développement physique, les épaules larges, les muscles qui découragent certaines filles. Au début, la famille m'a vraiment soutenue. En 2012, j'ai eu une bourse de la solidarité olympique. Je m'entraînais au Burkina et j'avais une aide financière. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et je suis venue aux États-Unis en 2016. J'avais accès à des infrastructures. Et aujourd'hui, je suis à Oklahoma où j'ai une très bonne équipe avec des coachs.
Angelica is a great trainer. She spends as much time in the gym as she spends in the pool, and she is really in good fitness right now.
Angelica is a friend, but a friend who sometimes gets on my nerves, only because she likes everything in its place. She likes it to be a certain way, and I understand that, and I kind of have to adapt to that. But besides the pain, she's an amazing person. I've had the opportunity to get to know her, get to love her as a sister, and I hope everyone has an Angelica in their life.
But lately, I've been trying to, you know, use my left as much as possible.
Yeah. Important to get those great big layers taken care of first.
Yeah.
And then find.
Les Jeux Olympiques, c'est le plus grand objectif de tout nageur ou tout athlète. Arriver là-bas, c'est le sommet. Avoir une médaille là-bas, c'est le rêve. Tout ce que je voulais, c'est rendre le peuple burkinabé et mon pays fier de moi. Au jeu de Londres, j'ai beaucoup appris. Les années qui suivaient, je me suis beaucoup entraînée et j'ai commencé à réduire mon temps. Chaque année, je réduisais mon temps. Je suis arrivée à Londres, j'ai battu mon record et actuellement, j'ai battu le record du Burkina. Je suis descendue à 29 et après ça, j'ai continué à m'entraîner et on est arrivé à Tokyo, où j'ai encore battu le record du Burkina.
I'm really excited to see how she does in the breaststroke because it's done so much better. She's really been working hard on it.